Bonsoir à vous, c'est Supersonic. Machine célibataire cherche porte dérobée pour établir un lien durable et souterrain, s'adresser à la radio qui transmettra. C'est codé, un peu, mais qui dit code dit décodage. On n'est pas là pour brouiller les pistes ou autre chose. Par contre, en chercher d'autres, des pistes, regardez, celles qui ont été recouvertes par la végétation et le temps qui passe, s'intéresser aux alchimies de toujours et pratiquer à nouveau l'expérience. Et toujours, imperturbable. La culture a ses machines, les machines ont leur culture. C'est très supersonique ce soir. Et de quoi rendre tout votre week-end sonique et super, et même les jours qui viennent. Salut les androïdes et bienvenue. Tout à l'heure, nous serons avec une moitié du duo électro Class of 69. Michel Wisniewski sera là, sans Joseph Gaud, mais il reviendra. Ainsi qu'avec François Bonnet, en charge de la direction artistique de l'INA-GRM, à l'occasion du 12e festival Présence électronique, qui se tient au 104 dans le nord de Paris les 4, 5 et 6 mars. Donc à peu de choses près le week-end prochain. Mais avant ça, on parle de l'exposition Les Machines Célibataires, qui a lieu jusqu'au 13 mars au lieu unique à Nantes. Et on fait tourner les machines. Eggs, Air, Sister, Steel, voilà, ça c'est l'album d'où extrait ce morceau de Pierre Bastien, une variation justement autour de, d'une certaine manière, de près et de loin, des exercices de style de Queneau, bien entendu. Bonsoir Marie-Pierre Bognol.
Bonsoir.
Vous êtes avec nous depuis les studios de Deutsche Radio Kultur à Berlin et vous êtes la grande organisatrice de cette exposition dont je parlais à l'instant, Les Machines Célibataires, qui se tient donc à Nantes, au lieu unique jusqu'au 13 mars. On va vite comprendre que le son a bien à voir avec tout ça. Pierre Bastien serait présent et présent dans cette exposition déjà. Mais les machines célibataires, c'est quoi comme terme? Ça vient d'où? C'est quoi l'histoire pour présenter les choses?
La notion de machine célibataire a d'abord été mise en orbite par Marcel Duchamp dans les notes du Grand Vers de la Mariée. Donc entre 1911 et 1915, il prend plein de notes qui vont constituer la boîte verte, le contenu de la boîte verte. Par la suite, une édition complémentaire et verbale de son Grand Vers de la Mariée mise à nu par les célibataires même. Donc c'est lui qui lance la notion. Et puis dans les années 50, un auteur proche du groupe surréaliste, Michel Carouge, décide de creuser un petit peu le lien entre la notion de machine célibataire via Duchamp et le Grand Vers et la machine de la colonie pénitentiaire de Kafka, qui est une machine de mort et à la fois de mort et d'extase, en fait. Et il se dit, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de structure qu'on retrouve, qui est commune, alors que les Kafka et Duchamp ne se connaissaient pas forcément, avec un haut, un bas, une inscription peut-être du haut vers le bas, une sorte d'ordre divin qui descendrait dans la machine. Et il décide de faire un travail exégèse où il rapproche ces deux machines célibataire, donc le Grand Vers et puis la machine de Kafka, avec d'autres structures et machines dans des romans, comme la machine du Château des Carpates, le roman de Jules Verne, ou l'invention de Morel de Bioy Casares.
Est-ce qu'on peut dire que, Marie-Pierre Bonnol, est-ce qu'on peut dire que la question des machines célibataires, c'est l'émanation, l'émergence d'un nouveau système métaphysique, un nouveau système tout court, qui serait lié ou qui aurait partie lié à l'émergence de finalement de la mécanique globalement dans la société, c'est ça ?
C'était l'intuition de Michel Carouge. Je pense qu'il voyait l'émergence en fait d'un archétype nouveau, une sorte de superstructure symbolique qui puisse définir l'homme en fait au XXe siècle, avec une première, enfin la Grande Guerre quoi, qui arrive, qui est ultra mécanisée, qui est très violente, avec l'émergence effectivement, la voiture pour tous, on va plus vite, tout est mécanisé, et on va dire que c'est une sorte de grille effectivement vocabulaire métaphysique, ou une grille de pensée métaphysique qui s'est construite tout au long du XXe siècle, un peu en marge de, on va dire, des courants principaux, mais qui touche quelques scènes littéraires, musicales, et dont Pierre, certainement, Pierre Bastien est un des enfants, et tout cela se nourrit aussi fortement du travail d'invention de Raymond Goussel, donc de la fin du 19e, qui est un pré-surréaliste, et qui, dans son intuition folle aussi d'artiste complètement délirant, et on va dire...
Bah oui, mais Raymond Goussel et Pierre Bastien, il y a des liens, évidemment. Quand Pierre Bastien était venu dans nos studios, on avait parlé de Raymond Goussel. Je crois qu'il a écrit, d'ailleurs. Enfin, il a travaillé sur Raymond Goussel. Chez Goussel, il y a des machines sonores, mais des machines impressionnantes. Et effectivement, vous avez parlé d'intuition. Là, on parlait au tout début donc de Duchamp, des années 10. Il y a aussi Picabia. On est dans le pré-surréalisme. On est même quasiment dans le pré-dadaïsme. Et là, on est en train de parler ensemble de quelque chose dont la base est véritablement une intuition artistique auprès de ces gens-là.
Tout à fait. Et en même temps, en plus, on se retrouve donc dans les années 50. Carouge rapproche tout ça et sort de la machine célibataire pour parler des machines célibataires. Mmh. Et il en fait une sorte de définition d'un mythe. Qu'est-ce qu'un mythe aussi ? C'est-à-dire, pour lui, un mythe comme une machine célibataire est d'abord une machine mentale, en fait, qui sert à capter, transformer, communiquer les mouvements de l'esprit. Mmh. Donc, il y a quelque chose d'effectivement qui est lié à l'intuition, qui est à la croisée, on va dire, de l'art de la littérature, presque de la psychanalyse, de la philosophie, voire même parfois de la mystique. Mmh. Et c'est tout une sorte de courant vraiment parallèle qui m'a intéressée et que j'ai voulu creuser, parce que je me dis en 2016, moi voilà, je suis née en 78, en 2016, qu'est-ce qu'une machine célibataire ? Et je trouve que c'est une notion qui reste actuelle, en fait, qui propose, tout en proposant une nostalgie. C'est-à-dire qu'actuellement, on ne voit plus les mécaniques de ce qui se passe, de ce qui nous régit, ce sont les algorithmes. Oui. On a très envie de voir les mécaniques de tout ça, et le problème, c'est qu'on ne voit plus l'intérieur.
Mais c'est pas possible. Ce que disait, par exemple, Stéphane et Louise Grasse, micro, c'est la semaine dernière, quand elle disait que aujourd'hui, même ceux qui produisent des algorithmes ne peuvent pas les voir fonctionner et comprendre même le résultat en termes mécaniques, précisément.
Et c'est aussi ce que j'ai voulu mettre à nu dans l'exposition, c'est-à-dire montrer des mécaniques. Alors une sorte de mise à nu de la mécanique des machines célibataires qui peut être qu'une version personnelle, mais mon objectif derrière tout ça, c'est d'observer et de déployer, on va dire, en espace, quelles pourraient être les mécaniques de l'imaginaire. quel est le lieu de l'imaginaire et qu'est-ce qui se passe, quels sont les mouvements d'un imaginaire, quels sont les trajets.
On peut peut-être dire quand même que c'est présenté, cette exposition sur les machines célibataires, à travers une structure qui est la vôtre, qui est la collection Morel, c'est ça ?
C'est ça.
Collection Morel, ça veut, vous avez déjà signé plusieurs expositions à travers ce nom-là. C'est une manière de... Elle existe et n'existe pas, cette collection Morel, en quelque sorte, c'est ça ?
Oui, c'est une. Je dis que j'en suis le commissaire et le conservateur. On va dire collection Morel, ça va être. C'est un programme d'action, d'édition, d'exposition, donc tout à fait concret avec des objets, des choses qui se passent. Mais on va dire que ça va être la façon dont je nomme mon imaginaire et je le transforme en dispositif pour une partie de ces intérêts qui vont effectivement être liés à une épiphanie qui est celle de la lecture de l'invention de Morel, donc de Bioy Casares, en me disant quand même il y a quelque chose qui me travaille énormément dans ce roman, j'y retourne tout le temps, j'y pense. Donc c'est essayer d'isoler dans mes goûts les figures les plus motrices, c'est-à-dire pas forcément ce que j'aime le plus ou ce qui est le plus beau ou ce qui est le plus chatoyant, ça va être vraiment ce qui est le plus moteur en moi, ce qui va me faire changer, qui va me faire évoluer à son étude. Et c'est ce que j'ai voulu présenter dans l'exposition parce qu'on a des pièces historiques.
Dites-nous où est-ce qu'on voit
la boîte. On a effectivement là un exemplaire de la boîte verte de Marcel Duchamp, ce qui est toujours assez impressionnant quand il est rentré. Marcel Duchamp est rentré dans la salle. On va dire certainement les autres artistes et les autres esprits devaient se tenir à carreau parce qu'on peut pas faire n'importe quoi. On a les 8 planches originales de l'édition de 76 de Michel Carouge qui ont été faites par son fils, qui sont des visualisations topographiques toutes faites à la main, magnifiques, de ces machines littéraires que sont Locus Solus de Roussel, la I, on a donc le Surmal de Jarry, des choses. Et il y a donc cette partie historique et j'ai voulu voir et présenter en exposition la façon dont la notion aussi a fait chemin en moi et sur cet art qui descend, c'est-à-dire quand on passe de l'étude à l'affect, c'est-à-dire qu'on est dans un sujet qui est absolument moteur, transformateur, et à son étude, en fait, je change, j'ai changé. Et c'est tous ces changements-là que j'ai voulu présenter dans l'exposition. Donc c'est une exposition aussi qui enchasse sa généalogie et que j'ai souhaité approcher d'un point de vue aussi personnel, parce que sur des sujets comme ça, on touche à l'ineffable, on touche au poétique, on touche à la capacité de transformation que propose le mythe, que propose la littérature, les espaces de la littérature, qu'est-ce que c'est l'espace d'un livre, toutes ces... on va dire ces espaces immatériels, mais j'ai voulu essayer de retranscrire par la scénographie de l'exposition une certaine idée des trajets de réflexion quand effectivement un sujet d'étude n'est pas qu'extérieur mais devient aussi intérieur.
Oui, alors justement, quand un sujet comme celui-ci, celui des machines célibataires, vous dites vous transforme, la mythologie que cette idée-là, Charry aussi, comment ça vous transforme, c'est aussi une manière de dire ce qui était considéré comme de l'avant-garde ou de la marginalité artistique au moment où c'est apparu, un siècle plus tard, non seulement innerve peut-être de manière invisible, mais innerve la société ou une manière de fonctionner de certaines personnes dans la société et les transforme profondément.
En tout cas, c'est un symbole. En travaillant là-dessus, j'ai travaillé sur un symbole assez puissant, une structure symbolique ou mythologique assez puissante pour qu'effectivement, elle ait encore de l'effet, je pense, effectivement, un siècle après. Donc, on a affaire à quelque chose d'extrêmement fort. Et ce n'était pas facile de m'y coller parce que quand je vais voir des auteurs comme Jérôme Peignot, qui a été producteur à France Culture pendant des années, ou des directeurs de centres d'art qui disent « Attention, on peut pas dire n'importe quoi, c'est la machine célibataire, c'est un sujet des fois qui peut tourner vers l'ésotérique et qui peut correspondre à une sorte de club d'ailleurs qui est illustré dans l'exposition avec un dessin très 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 beau de Glenn Baxter, un pétant de couleurs, où on voit un club de boy scouts qui se lisent du Roussel, voilà, ils se lisent tous les soirs Impression d'Afrique, la troisième ligne de chaque page. Donc on se retrouve aussi face à un club que j'ai voulu aussi mettre dans l'exposition parce qu'on retrouve l'ombre de, par exemple, d'Enrique Villamatas dans l'exposition. En tant que personne qui écrit, personne qui réfléchit, souvent je me dis, mais Enrique Villamatas, il écrirait quoi? Donc j'ai voulu qu'il y ait son ombre sur l'exposition. Et il y a effectivement aussi cet orchestre de papier de Pierre Bastien qui est absolument magnifique.
Alors il faut dire ce que c'est l'orchestre de papier.
Oui.
Dites-nous, l'orchestre de papier, ce sont des instruments véritablement et des automates à base de papier qui frappent, qui tapent, qui percussionnent.
Voilà, on a trois, il y a trois structures. Il y a donc des percussions qui sont tapotées par du papier, on va dire. Il y a des orgues de papier et il y a des flûtes en papier, un serpent de papier également. Donc, ce sont effectivement des automates. Il y a une programmation de 3 minutes de composition qui tourne en boucle, enfin qui est provoquée par la présence du spectateur. C'est de la musique donc qui est faite par du papier et pour moi qui résonne très fort parce qu'elle correspond aux limites du verbe, c'est-à-dire qu'à un moment donné le langage ne tient plus, on arrive vraiment à la sensibilité, à une sorte de surface de sensibilité pure où le langage ne marche pas et j'ai voulu le mettre dans la scénographie de l'exposition comme chambre de l'ineffable.
Voilà, le papier quand il ne sert pas à imprimer des livres, il sert aussi à faire de la musique grâce à Pierre Bastien et son orchestre de papier. Vous le disiez, Marie-Pierre Bonniol, un jour, Michel Carouge, donc héritier des surréalistes dans les années 50, fait un lien, une théorie d'un lien entre un texte de Franz Kafka et puis le grand vers de Marcel Duchamp, un tableau qui n'en est pas vraiment un, qui est une plaque de verre. On voit à travers, enfin voilà cette proposition-là. Il en avait fait des plans, ces plans qu'il a mis dans cette boîte verte qu'on trouve donc au lieu unique à l'exposition. À l'exposition que vous proposez, Marie-Pierre Bonniol, donc les machines célibataires. Et il fait cette hypothèse d'un lien non conscient peut-être, mais qui serait la preuve d'une superstructure imaginaire qui lirait peut-être les actions du XXe siècle ou les agis du XXe siècle ou les agents du XXe siècle. Il fait cette hypothèse-là. Est-ce qu'on peut dire que, d'une certaine manière, Michel Carouche fait un lien hypertexte dès les années 50 ? Ça ressemble à ça. C'est une démarche hypertexte avant le lien hypertexte qu'on utilise aujourd'hui sur Internet.
Il y avait vraiment cette volonté, je pense, pour lui d'arriver à une définition d'une ligne et d'arriver au bout d'alambic, à quelque chose de comment transformer une intuition en phrase, en quelque chose de communicable. Et il s'est servi, il s'appuyait de ça. Et c'était pour lui, je pense, aussi un moyen. Michel Carouge était croyant. Je pense que c'était aussi un moyen de
retrouver une transcendance.
Ouais, quand même, quoi. Vraiment, il était dans ces choses-là. Ce qui fait que sa croyance l'a fait qu'il était très proche du groupe surréaliste, adoubé par Breton, mais il n'en a jamais vraiment fait partie. C'est un mouvement quand même assez osé, je trouve. Et je trouve qu'aussi en ce moment, quand même, il y a notamment sur ces questions d'algorithmes, d'intelligence artificielle qui se développent. Ces derniers jours, on a vu cette proposition d'artiste qui propose qu'un robot devienne président des États-Unis parce qu'on est certain qu'il n'y aura pas d'état d'âme, que ça sera un bon gouvernant. Et en tout cas, il avait cette intuition. Je pense en tout cas qu'en ce moment, il peut y avoir une tendance de retour au spirituel dans les pires formes, malheureusement, comme on peut le voir. Mais je pense qu'il y a une possibilité qui peut se passer avec tendresse. Et ma proposition au lieu unique d'exposition, elle va dans ce sens et aussi essayer d'approcher un sujet qui a été extrêmement masculin au XXe siècle avec une touche, on va dire, féminine, donc du XXIe. On va voir un petit peu si ça se lit, mais en tout cas, ça peut se lire aussi comme une tarte du tendre, c'est pas mal aussi. Voilà. Ça peut se lire comme une carte du tendre dans le sens où, moi, tout de même, quand je suis la plus machine célibataire, c'est là où je suis extrêmement amoureuse. Et, c'est là où on est, je pense, la machine célibataire la plus puissante. Voilà. Donc il y a aussi cet aspect-là dans l'exposition.
Vous voulez dire que la machine célibataire, quand elle est célibataire, elle est disponible aussi, c'est ça que ça veut dire?
Non, en fait, c'est marrant parce qu'au niveau de l'anglais, par exemple, bachelor, c'est vraiment le sens de célibataire, alors que le célibat en allemand, par exemple, c'est vraiment sur la chasteté, par exemple. Donc, c'est pas une disponibilité. On dirait que c'est vraiment le fait de est-ce qu'on peut être en communication d'ineffable? Est-ce qu'on est seul? C'est de manière, la question de Carouche, c'était ça, quoi. Pour lui, le mythe des machines célibataires, c'était vraiment la distance ou la différence entre la machine et la solitude humaine. C'est-à-dire cet écart qui se fait et. On cherche tous des gens avec qui on a des ententes et c'est aussi, je pense que là où l'art et la culture jouent un rôle très important parce que ça permet, alors que pas tout le monde est en mesure de s'exprimer artistiquement ou par l'écriture ou par des choses comme ça, la culture permet quand même de se retrouver autour de figures fortes et en tout cas ça a développé vraiment ma croyance dans l'obligation d'avoir, d'être actrice dans le champ culturel parce que je pense que c'est la seule manière pour les humains
de se parler,
de se retrouver.
Ouais.
Quelque part, oui.
Vous dites quelque part, j'ai lu en tout cas quelque part que Duchamp, Picabia, des gens comme ça, quand il s'agissait de construire quelque chose autour du schéma de la machine, c'était aussi une manière de faire passer des affects. C'est-à-dire que c'était des grands timides, quoi, vous dites.
Ça se voit vachement chez Picabia, là. Ses poèmes et dessins de la fille et son mère sont magnifiques là-dessus. Il y a ce dessin où on parle. Il y a la zone de bavardage en haut, la zone de convenance, des bavardages entre les deux. Et en bas, c'est les fameux temples peu sûrs dont on n'est jamais vraiment sûr. Donc, en tout cas, oui, c'est une grande lecture, une lecture érotique de la machine, une lecture des affects. Et pour moi, de toute façon, les affects sont la base de la pensée. C'est aussi quelque chose qui s'est affirmé dans ma recherche au niveau des machines célibataires. C'est que sans ce grand foyer, une machine célibataire n'existe pas sans moteur. Et c'est le même moteur pour moi qui donne l'élan pour faire de l'art, comme pour être en amour. On est sur la même structure. Sinon, il n'y a pas de dépassement. Donc, oui, bien sûr, on est sur les fondamentaux de l'homme. De toute façon, on marche à l'affect. Et c'est ce désir-là dont Duchamp parle bien. Il a pris cette essence de l'époque qui s'appelait automobiline. Il a nommé essence d'amour. Donc je trouve ça très bien. Et quand je suis arrivée, donc je vis à Berlin, et quand je suis arrivée à Nantes, et peut-être que je suis un peu bleue, mais que j'ai vu cette station-service qui s'appelle Élan et que je ne connaissais pas, je me suis dit ça va, la tradition continue 100 ans après.
L'élan est dans l'essence, ou l'essence de l'homme, est à la pompe.
Voilà, bon.
D'accord, très bien. En tout cas, c'est vrai que les machines célibataires permettent à la fois de parler à la tête et à l'affect. C'est ce qu'on comprend à travers votre propos.
Voilà.
Satie, remixé par Jean-Jacques Palix. Sarabande, remixé par Jean-Jacques Palix. Jean-Jacques Palix, homme de son, bien connu, qui participe aussi à l'exposition des machines célibataires, qui vous accompagne, Marie-Pierre Bonniol.
Oui, tout à fait. En fait, ce qu'il a fait, donc, une sélection sonore de 2 heures, où on retrouve autant la valse de Marianne Bad, dans l'année dernière à Marianne Bad, que des enregistrements de machines. Et surtout, il fait partie de ses correspondants avec qui je partage une culture et qui m'a nourri énormément de machines célibataires depuis 3-4 ans que j'ai ouvert le sujet. Et je suis très heureuse qu'il ait pu m'accompagner sur l'exposition, et les aventures ne s'arrêteront pas là. Donc, très contente. Il fait partie de ses partenaires de collection Morel, qui sont présents un peu en filigrane dans toutes les propositions, comme Pierre Bastien et quelques autres.
L'exposition au lieu unique, donc qui dure jusqu'au 13 mars, vous la dédiez à Jean-Jacques Pauvert, l'éditeur. Pour quelle raison ?
plusieurs choses. Il a été très très marquant dans mon parcours, que ce soit du Littré familial à ses
qu'il a édité,
bien sûr. Voilà. Qu'il a édité, voilà. C'est, enfin, Littré, c'est quand même un monde, quoi. C'est plus qu'un atlas, quoi. Donc c'est pas visuel, mais c'est quand même tout un terrain. Ce que il m'a énormément marqué par son travail d'édition, donc autant de Roussel, Bataille, Sade, que aussi ses éditions de Fulcanelli hein, et de Jeanne Cancelier au niveau des alchimistes de l'alchimie. En fait, aussi, ce qu'il y a, il y a cette histoire, c'est un peu un coming out, mais c'était le premier qui m'a édité quand j'avais 17 ou 18 ans dans une anthologie érotique parue à la Musardine. Alors, quand mes parents l'ont appris, ça n'a pas bardé, mais c'était un peu étrange à la maison parce que j'étais voilà pratiquement mineure. Et mais en tout cas voilà, c'est quelqu'un avec qui je regrette de ne pas avoir eu de projet avant son décès, et qui m'a quand même convaincue que les éditeurs et enfin les acteurs de l'art sont en rôle extrêmement important. En tout cas, je sais que mon paysage intellectuel et affectif en partie, enfin la partie affective qu'il y a avec l'intellect a été énormément forgée par ses choix éditoriaux.
Mais voilà. D'une certaine manière, avec cette exposition et avec la collection Morel, donc votre structure, parfois imaginaire et parfois totalement réelle, comme en ce moment quand elle se matérialise à travers ce type d'exposition, vous devenez éditrice d'exposition. Alors on dit curatrice, je crois que c'est moins beau qu'éditeur quand même, mais voilà, il y a des images, il y a des sons, il y a des objets et vous les éditez.
Alors là, ça pose deux choses. Derrière chaque objet, en fait, à Nantes, derrière chaque proposition, il y a un très très grand désir. C'est-à-dire que j'ai fait beaucoup d'activités. Je suis productrice de concerts, d'artistes, de festivals. Je programme. Je suis agente. Je travaille dans la culture, on va dire, comme agent depuis des années.
Agent de Pierre Bastien, dont on parlait tout à l'heure.
Entre autres, ouais. Mais c'est aussi par rapport à ce projet. Donc, je travaille avec des Faust ou Tony Conrad ou des gens comme ça. Donc, depuis 20 ans, et là, je voulais vraiment quelque chose, que derrière chaque pièce de l'exposition, voilà, il y a un désir qui soit extrêmement fort pour moi, dans le sens où j'y agrège des émotions importantes. Donc, c'est vraiment le haut du panier pour moi, c'est-à-dire j'ai vraiment, par rapport à tous les trucs que j'aime, j'ai filtré, écrémé, et j'essaye désormais d'aller vers des
choses qu'on appelle le musée idéal.
Un petit peu, et puis aussi le problème de curatrice, alors ça c'est un petit souci que j'ai, c'est que moi je me considère marquée par l'esthétique, et donc je serai esthéticienne et curatrice, donc je fais un peu les épilations et les avortements, donc je pense que le logo c'est très très important pour pouvoir se renommer quand les mots ne sont pas très beaux pour se nommer.
D'accord. J'avais une dernière question, Marie-Pierre Bonnier. Est-ce que, en traitant comme ça de cette histoire au sens, chronologie aussi, des machines célibataires, vous ne faites pas une forme d'archéologie du geek contemporain? Le geek a gagné. Le geek est le chef. Le geek est le chef du monde après avoir été rejeté dans la cour de récréation. Mais il a sa propre mythologie. Et finalement, grâce à vous, on se rend compte que dans la mythologie du geek, il y a peut-être Duchamp, Picabia, Eric Satie, qu'on a entendu remixer par Jean-Jacques Palix. Enfin, voilà.
Peut-être, en tout cas, ce que j'aime bien, c'est les geeks en général sont des mecs gentils. Moi, je dis que les mecs gentils, ils sont vraiment underrated, comme on dit en anglais. Donc, en tout cas, je propose, c'est sûr, j'essaye de mettre mon travail en généalogie, c'est-à-dire aussi, c'est des plusieurs niveaux d'écriture. Tout à l'heure, vous évoquiez le fait que Carouge peut-être crée l'hyperlien. En tout cas, ça, c'est une écriture pour moi qui compte énormément, une écriture avec plusieurs strates qui vont dans la réalité, l'imaginaire. Il y a des fictions qui sont chassées dans l'exposition, il va y avoir des compléments sur Internet. En fait, tout ça, c'est aussi tout un réseau qui se trame. C'est comme un imaginaire, c'est pas tout linéaire, tout n'est pas au même plan. Il y a des plongées, il y a différents niveaux, et c'est tout cet espace. Et tout ça, ça forme un espace. Par le fait qu'il y ait des strates, ça forme un espace. Et c'est cet espace-là, moi, je trouve qu'il est essentiel, parce que ça permet, à partir du moment où on arrive à figurer son imaginaire comme un espace, eh bien, on devient un petit peu plus vivant. C'est ce que j'essaye de faire avec Collection Morel.
Un imaginaire en trois dimensions et un espace en trois dimensions dans lequel vous nous invitez, Marie-Pierre Bonnieul. Ça se passe donc au lieu unique à Nantes jusqu'au 13 mars, les machines célibataires, proposées donc par la Collection Morel et par vous, Marie-Pierre Bonnieul. Merci beaucoup d'avoir été avec nous depuis Berlin. Et donc,
merci.
On met toutes les références évidemment sur franceculture.fr à la page de Supersonic. Et on se quitte avec du Pierre Bastien, encore une fois un extrait de Silent Motors. Ben voilà, encore une fois des machines, Silent Motors, le nouveau set live de Pierre Bastien enregistré par la radio hollandaise il y a quelques mois. Ça s'appelle Number Two. Merci à vous.
Merci.
France Culture, vous écoutez Supersonic de Thomas Baumgartner.
Et on passe d'une proposition de visite à une autre, là ce sont des concerts gratuits, ça se passe cette fois à Paris les 4, 5 et 6 mars, donc pour ainsi dire le week-end prochain, c'est au 104 dans le nord de la capitale, ça s'appelle Présence électronique 12e du nom, et c'est le festival du GRM, le groupe de recherche musicale. Pour en parler, il y a avec nous François Bonnet, en charge de la direction artistique de l'INA GRM, bonsoir.
Bonsoir.
Festival du GRM, GRM and Friends, on va dire ça, hein. C'est ça, maintenant on a l'habitude, Présence électronique, c'est un festival ouvert du GRM.
Oui, c'est ça, c'est un festival de réunion autour des musiques électroacoustiques, acousmatiques, noise, improvisées, et réunion de toutes ces musiques et de toutes ces esthétiques autour d'une expérience commune qui est l'expérience de l'écoute dans l'espace, de la musique grâce notamment à la technologie et grâce au système développé par le GRM depuis déjà plus de 40 ans, l'Acousmonium.
Donc vous dites, voilà, vous invitez des gens de vraiment partout dans le monde, c'est un lieu de mélange aussi, Présence électronique, en termes géographiques, et vous leur dites, voilà, on a nos outils, voilà, et utilisez-les.
Voilà, l'idée, c'est pas d'avoir une date en plus sur la tournée d'un artiste. L'idée, c'est vraiment de dire, voilà, on a repéré votre travail, ou bien on aime ce que vous faites, et on pense que votre musique pourrait trouver avantage à être déployée à travers notre système. Et souvent, les artistes savent très bien qui on est, et ont déjà toute la culture des ancêtres de la cosmétique et de l'électroacoustique, et donc se prennent au jeu assez volontiers. Alors ce qu'on aime faire aussi, c'est pas que ça soit un seul coup. C'est-à-dire que des artistes vont venir une première fois, peut-être un peu timides. Ils vont venir, ils vont voir toute la palette sonore qu'ils ont à disposition. Et certains vont réussir à monter à cheval, on va dire, du premier coup. D'autres, on commence petit à petit. Et donc, on aime bien réinviter les artistes quelques années plus tard.
Un petit compagnonnage comme ça.
Voilà, c'est quelque chose qui est important pour nous, d'essayer de suivre des artistes, de les amener un petit peu vers ce qu'on défend, c'est-à-dire vraiment mettre l'écoute au centre de la performance musicale, déployer le son dans l'espace, et puis être attentif à la qualité des sons, plus que simplement le volume. Et voilà, essayer de dire un petit peu à ces musiciens électroniques expérimentaux que leur musique mérite finalement une mise en son de haute qualité et un petit peu aussi folle ou audacieuse. Et que c'est pas forcément le dispositif rock qui est le dispositif qu'on rencontre dans toutes les salles de concert qui est le plus adapté.
Alors voilà, l'idée du son pour les artistes, c'est une chose, et puis le son pour le public, évidemment, et ça marche, Présence électronique, faut le dire.
Bien sûr, oui, c'est quelque chose dont on est assez heureux, c'est que on a réussi à avoir un public maintenant qui vient, qui sait ce qui va se passer, qui sait qu'il y aura pas forcément un grand spectacle sur scène, mais par contre, il y aura un spectacle auditif qui ne rencontre pas vraiment d'égal ailleurs. Et donc le public vient, il sait ce qui va se passer. Et on a l'impression que ce public élargi, qui n'est plus simplement un public spécialisé dans les musiques électroacoustiques ou acousmatiques, a quand même intégré le fait qu'on est ici pour écouter et pour trouver de la jouissance à travers l'écoute de la musique.
Alors, vous dites qu'il y a du compagnonnage avec certains artistes qui viennent une fois, reviennent parfois, apprivoisent le système que vous leur proposez. Class of 69 est déjà venu ou c'est une première ?
Alors, Class of 69, c'est une première. En revanche, les membres de Class of 69 sont des gens qu'on connaît depuis un certain temps déjà, à travers des rencontres dans des concerts. C'est quelque chose qu'on essaie de faire aussi, c'est d'aller voir ce qui se passe ailleurs.
Ah bah oui, de les inviter, aller sur place.
Oui, et puis aussi rencontrer des gens, partager des expériences. Donc, Joseph Gosne et Michel Wisniewski sont le duo Class of 69, sont des gens qu'on a suivis et avec qui on a interagi à différentes façons, à différentes occasions également. Et là, pour l'occasion, mais peut-être que Michel en parlera bien mieux que moi, on a dit, essayons de faire quelque chose que vous n'auriez pas fait dans un autre contexte de concert. Essayons de tirer un petit peu l'esthétique Class of 69 vers un horizon qui est plus proche du nôtre et pour trouver un point de rencontre qui peut être bénéfique et en même temps audacieux pour les deux parties.
Michel Wisniewski, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, François Bonnet vous sort de votre zone de confort, c'est ça l'idée ?
Exactement, exactement. En venant ici, je redoutais une question. On me demande de définir la musique de Class of 69.
Ah non, on va entendre un petit peu ce que vous faites avec Joseph Gosne. Quand même, on est aussi là pour ça. Mais donc, vous êtes programmé, alors que je ne dise pas de bêtises, le samedi à 16h, voilà, dans la salle 400. Jouer déjà à cet endroit, ça se prévoit comment ? Ça se prévisualise comment en tant qu'artiste ?
C'est un peu comme toute la musique de Class of 69. On évite d'y penser, de réfléchir. On arrive là où on doit jouer et on joue sans réfléchir, sans préparer. Donc ce que le commissaire nous a proposé pour, pour ce festival, c'est une pièce un peu plus ambitieuse, de monter un collage sonore de field recording et d'adapter notre musique qui est principalement électronique, improvisée, par-dessus.
Bon, ça, ce sera écouté dans une semaine, donc à 16h. En attendant, on va quand même écouter Class of 69 dans sa version traditionnel, un extrait de La Maison. Quelque part, il est noté que Class of 69 crée une musique de machine fragile. Ça vous correspond, Michel Wisniewski ?
Oui, tout à fait. On adore les machines totalement incontrôlables. Par exemple, moi, je joue sur un Persephone qui est une version moderne des ondes Martenot que je suis totalement incapable de contrôler en tant que musicien. Faire une note juste est juste impossible. Et globalement, je laisse la machine jouer et je la suis plutôt que c'est moi qui la dirige.
On a vraiment l'impression dans vos morceaux, ce que j'ai pu entendre, c'est l'invitation à se plonger dans la vibration la vibration produite véritablement par la machine.
Oui, je pense souvent qu'un enfant de 5 ans qui arriverait sur scène et qui prendrait ma machine ferait certainement quelque chose d'aussi bien ou de certainement mieux. Mmh. Et bon, ça va.
Oui, mais à ceci près que vous jouez le temps long, relativement long, et l'évolution lente du morceau fait que on a vraiment l'impression d'être sur une barque que vous conduisez. Alors, tant bien que mal, si je comprends bien, mais vous nous invitez vraiment à vous suivre.
Oui, c'est... C'est assez difficile à expliquer, c'est une espèce de magie qu'on a acquis avec Joseph ensemble, à force de jouer ensemble. Je suis le premier surpris à chaque fois, et la qualité de nos résultats, qui sont bien sûr pas ni préparés, ni écrits, ni même réfléchis. Je suis le plus gros auditeur de la musique de Class of 69, et franchement,
vous êtes le premier auditeur.
Je suis tout le temps surpris.
C'est à ce titre que vous nous parlez. On se plonge, on continue de se plonger dans votre composition. Thank you.
L'impression, Michel Wisniewski, que Class of 69, par exemple, dans ce morceau-là, cherche à jouer avec les perceptions. On n'est plus trop sûr de ce qu'on entend par moment une fois qu'on est vraiment plongé à l'intérieur du son.
Peut-être, c'est un jeu qu'on a entre nous, en fait. Mm-hmm. On adore quand, à un moment, on ne sait plus trop qui joue quoi ou qui a joué quoi, et on se dit juste... Ok, super, ça roule, on continue.
Il y a une forme d'hypnose, on peut dire ça ?
Oui, oui, on aime beaucoup les musiques qui prennent le temps et qui s'emparent de l'auditeur comme ça.
Alors François Bonnet, vous avez demandé à Class of 69 donc d'être eux-mêmes, j'imagine, mais en leur demandant de varier un peu, quoi, de se décaler un peu par rapport à ce type de repères.
C'est-à-dire qu'en discutant avec Joseph Ghost, il m'évoquait ses nombreux voyages au Liban et à Beyrouth, parce qu'il est originaire de Beyrouth, et sa pratique des enregistrements. Et en discutant, on est venu à cette idée de peut-être, pourquoi pas, profiter du dispositif de haut-parleurs qui leur est offert pour travailler sur un travail hybride, mêlant cette électronique minimale qui travaille sur la durée et qui est assez fragile, qui me touche, moi, dans le travail de Class of 69, avec un travail de mise en espace plus proche du field recording et de voir comment ça pouvait s'associer. Mm-hmm. Donc, ils sont pris au jeu, ils sont venus dans nos studios pour travailler cette bande en quadriphonie. Et on espère, et je pense que ça va être un mélange qui va être heureux.
Samedi prochain, donc à 16h, c'est dans la salle 400. Alors, c'est quoi les différents lieux du festival Présence électronique ?
Voilà, alors, le festival se déploie sur deux scènes principales. Une scène d'après-midi, qui est la salle 400, qui est en fait un dispositif assez intime, où la scène est centrale, et le public entoure l'artiste, et le public est lui-même entouré par les haut-parleurs. Donc, il y a une qualité d'écoute qui est vraiment très très précise, et il n'y a pas d'orientation. Donc tout le monde...
Il n'y a pas de devant, de derrière, c'est ce que ça veut dire ?
Voilà, il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'arrière, parce que justement, comme on est dans des musiques où on place l'écoute au centre de tout et où finalement il n'y a pas grand-chose à regarder, eh bien on en profite pour, même si on a une scène où le public peut converger, pour travailler justement sur un espace désorienté, qui est généralement quelque chose qu'on subit plus qu'autre chose quand on est dans des salles de concert traditionnelles. Donc ça, c'est tous les concerts de l'après-midi qui sont assez dédiés à des musiques vraiment pour une écoute intime et des musiques électroacoustiques. Et la Nef, qui est plus un espace assez gigantesque, qui a aussi une belle qualité d'écoute avec une grande réverbération.
C'est vécu par vous comme une contrainte ou comme quelque chose avec quoi jouer ?
Alors, le principe un petit peu de notre philosophie avec l'Acousmonium, c'est qu'on n'a jamais de contraintes, on n'a que des paramètres. Et donc, il s'agit de tirer le meilleur de l'espace qu'on a. Et on peut jouer dans des salles de concert, dans des églises, dans des usines désaffectées, on installe notre système et on en tire le meilleur parti. Donc, moi, la Nef, c'est un espace que, personnellement, j'aime assez. On n'a peut-être pas une écoute aussi précise, aussi ciselée que dans la salle 400, mais on arrive, et c'est un peu la magie du festival au 104 rue d'Aubervilliers, à créer une écoute intime et collective, et une écoute vraiment très attentive, dans un espace énorme. Mmh. Et finalement, on se sent tous rapprochés les uns des autres, avec quand même un son qui s'envole. Et ça, c'est des moments que j'aime assez, en fait.
Alors, il faut rappeler la Cousmonium. Encore une fois, c'est un orchestre de haut-parleurs, pour faire vite, et qui est vraiment l'invention du groupe de recherche musicale.
Voilà, pour le dire rapidement, c'était François Bell, en 1974, qui a lancé cette idée de créer un orchestre de haut-parleurs. Donc, à l'époque, c'était vraiment un orchestre de haut-parleurs, avec des registres, des haut-parleurs graves, des haut-parleurs aigus, pour quelque part simuler un orchestre traditionnel, de manière à pouvoir donner en concert les musiques électroacoustiques et acousmatiques. Au fur et à mesure du développement technologique, le multicanal est arrivé, et donc le système est devenu de plus en plus plus un système de multidiffusion modulable et hybride, qui travaille beaucoup sur les positions spatiales, mais avec quand même toujours cette idée d'avoir une gamme de timbres au haut-parleurs différentes, et pas forcément qu'avoir des timbres les plus neutres possibles, au contraire, avoir des haut-parleurs colorés, des haut-parleurs avec une forte personnalité, pour offrir au compositeur une palette de sons.
Et l'acousmonium est l'instrument du compositeur.
Et l'acousmonium est un instrument.
Et de l'interprète.
Absolument.
France, États-Unis, Italie, Norvège, Grande-Bretagne aussi. Enfin, voilà quelques-uns des pays dont sont issus les artistes invités. Donc le week-end prochain pour Présence électronique, François Bonnet, une question quand même. Pourquoi il y a un S à Présence et pas à électronique?
Alors c'est une orthographe défaillante, mais qui n'est pas défaillante sans raison, parce qu'elle a une histoire. Ouais. Et cette histoire, c'est qu'en fait, le festival Présence électronique est un dérivé du festival Présence de Radio France. Et donc, à l'époque du festival Présence, il y avait un week-end ou une journée qui était consacrée aux musiques technologiques. Et puis, il y a eu une volonté de développer vraiment un festival à part qui, normalement, se passait une semaine après le festival Présence. Et donc, c'était Présence en italique électronique. Et alors, maintenant, le festival Présence électronique est indépendant. Mais on s'est souvent posé la question, mais en fait, il vient pas de nulle part, il a une histoire, et on est toujours lié à la radio, à Radio France, et donc on l'a laissé.
C'est de marquer toujours ce lien et l'histoire de.
Mais le festival se développe aussi, par exemple à Genève, et là il est décliné sous le nom de Présence électronique Genève avec un S.
Puisqu'on parle de l'histoire de ce festival, pendant longtemps, la personne qui s'occupait de la direction artistique du festival et du groupe de recherche musicale, c'était Christian Zanesi, compositeur comme vous d'ailleurs, François Bonnet. Et donc vous lui avez succédé en quelque sorte à cette tâche-là, et Christian Zanesi se trouve programmé le dimanche à 16h. Bah oui, maintenant il peut développer complètement son travail de compositeur.
D'une part, et puis c'est vrai qu'il n'avait jamais été programmé dans le festival, et donc c'était une injustice qu'il me paraissait important de réparer au plus vite. Surtout que moi, par exemple, il y a une pièce de Christian, c'est la pièce qu'il va jouer qui s'appelle Grand Bruit, que j'ai jamais eu la chance d'écouter sur un vrai dispositif acousmatique. Donc c'était un cadeau d'abord que je me faisais.
Bah voilà, mais ça peut aussi commencer par ça, une programmation. Alors quand on en a discuté un petit peu en amont pour préparer cette émission, vous m'avez parlé d'une pièce en particulier intitulée La Mutazione de Giancarlo Tognutti, dont vous m'avez dit cette pièce est proprement hallucinante, et vous êtes venu avec le CD de cette pièce. Elle sera à écouter, en tout cas la première partie sera à écouter dimanche, donc le 6, dans une semaine à 18h. C'est aussi dans la salle 400, ce seront produits le duo de Class of 69 la veille. Et donc là, peut-être un petit mot de cette Mutazione dont on va entendre l'ouverture de la deuxième partie, là ce sera la première.
Oui, La Mutazione, c'est une pièce de Giancarlo Tognutti, qui est un artiste assez singulier, qui est très très discret, qu'il faut aller vraiment chercher dans sa campagne italienne. Et La Mutazione, elle vient de ce mouvement post-industriel, noise électronique italien, défendu notamment par Broken Flag Records, avec des gens comme Maurizio Banchi, etc. Et quand on regarde les protocoles de composition d'une pièce comme La Mutazione, on voit qu'il y a des synthétiseurs analogiques, des bruits, des sons trouvés, des objets, des boucles sur bande, des pédales d'écho, des microphones, de la voix, la radio, des bandes magnétiques. Mmh. En gros, tout l'instrumentarium concret, débridé. Et c'est aussi, pour moi, c'est assez symptomatique de voir que avec des chemins historiques différents, des esthétiques différentes, on arrive quand même, simplement par la force du son et des protocoles qui créent les formes sonores, à avoir des familiarités et des croisements et des dialogues.
Alors Giancarlo Tognutti, il est musicien-compositeur, mais il est aussi, alors c'est ce que vous nous dites dans le programme, il est chercheur en morphologie. Je ne sais pas si ça joue sur sa musique aussi, si la question de l'onde, de la vibration qui touche le corps entre à la fois dans ses recherches et dans sa composition, mais ça donne aussi l'idée des profils de ces compositeurs que vous invitez, François Bonnet. On écoute alors La Mutazione, part B, comme on dit, et part A, ce sera donc
ce sera pour la surprise dimanche. Voilà.
La Mutazione, deuxième partie, le début seulement, l'ouverture, par Giancarlo Tognutti. François Bonnet, à chaque fois, ce sont des rencontres, des compositeurs comme ça qui viennent du monde entier, que vous accueillez, je sais pas si Giancarlo Tognutti découvre Paris, mais parfois c'est peut-être le cas d'ailleurs. Il y a des rencontres humaines, tout simplement, quand on organise un festival comme ça.
Oui, c'est quelque chose auquel on est assez attaché, mes collègues de l'INAGRM et moi, c'est d'incarner et d'humaniser ces rapports dans ces festivals où des fois les musiciens arrivent, posent leur matériel, jouent et repartent. Nous, on essaye vraiment de travailler en amont, donc comme on l'avait évoqué, pour leur présenter le dispositif, essayer de les inciter à utiliser nos outils. Mmh. Et ensuite, on essaie de garder des liens. Il y a des liens d'amitié qui se créent. Mmh. C'est quelque chose qui est important, parce qu'en fait, on a vraiment l'impression d'agréger une communauté grâce à la chance énorme qu'on a, nous, les gens du groupe de recherche musicale. C'est qu'on a hérité d'une aura de ce groupe. Mmh. Qui a plus de 50 ans maintenant. Et donc, on essaie de faire honneur à ça. Mmh. En accueillant quand on peut les gens et en essayant de partager quelque chose.
Il y a un duo norvégien qui sera là samedi soir, Sidsel Andresen et Stian Westerhus. Là, c'est un duo qui vient plutôt de la scène jazz et qui sont invités au titre de performeur, quoi, performance, c'est noté comme ça dans le programme. Donc là, c'est toujours l'ouverture dont on parlait tout à l'heure.
Voilà, c'est une ouverture, mais parce qu'il y a aussi des étiquettes, on dit jazz, on dit noise, mais il y a aussi des gens qui, à l'intérieur de ces étiquettes, font bouger les frontières. Mm-hmm. Et Sidsel Andresen, c'est complètement le cas. On l'avait accueilli à la première ou à la seconde édition de Présence électronique, je ne me souviens plus bien, avec Helge Steen et Christian Valumrod. Déjà, Helge Steen, c'est Death Prod qu'on a réinvité avec Super Silent ou en solo, donc un musicien vraiment électronique. Et Sidsel Andresen,
c'est la voix, hein.
C'est une chanteuse, mm-hmm. qui explore toutes les possibilités de sa voix et possibilités vocales. Et Stian Westerhus, qui est un guitariste expérimental assez génial, mm-hmm. Quand on les voit jouer ensemble, on se dit qu'ils sont vraiment à l'écoute l'un de l'autre et que quelque chose de magique peut sortir de ça, quoi.
Mmh, donc, oui, mais j'ai l'impression qu'entre hallucination et magie, ça fait partie du programme que vous annoncez finalement, en quelque sorte. Il n'est pas interdit de fermer les yeux pour halluciner, quoi.
Non, mais c'est une belle phrase, parce que c'est quelque chose qu'on essaie de faire partager, vraiment, cette relation à l'écoute et cette relation fertile de l'écoute. Et on est encore, après 12 éditions, les premiers surpris de ce que les artistes peuvent nous donner à entendre.
Merci à tous les deux, François Bonnet et Michel Wisniewski, d'être passés par ici. Michel Wisniewski, vous saluerez de notre part Joseph Gosne, et on espère bien qu'on aura l'occasion de vous revoir tous les deux, cette fois dans ce studio. Merci à vous.
Merci.
On vous a offert, chers amis, deux beaux avant-goûts pour vos prochaines sorties. Le festival donc Présence électronique, c'est au 104 à Paris à partir de vendredi prochain et pour 3 jours. Et les Machines célibataires, c'est au lieu unique à Nantes jusqu'au 13 mars. Pour aller plus loin, il y a une série de liens qu'on met bien sûr sur franceculture.fr avec les commentaires, les podcasts et la réécoute. Définitive et sans limite dans le temps désormais. Supersonique est préparé et coordonné par Inès De Bruyne, réalisé par Véronique Lamandour. Et au son ce soir, il y avait Pierre Monteil. Tout de suite, vous retrouvez les Nuits de France Culture. Portez-vous bien et à samedi prochain.